Stop, c'est parti.
Regardez-moi la télé.
Nous allons parler de l'information.
MJV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello.
Il est 9h40 sur France Inter. Soyez les bienvenus dans l'Instant M.
Vous coupez ?
Non, je vous demande.
Vous êtes en direct, allez-y.
En deux mois, France Télévisions a relancé le Grand Échiquier durant toute une soirée consacrée de prime time à Prodige, un concours de jeunes talents, a programmé une série intitulée Philharmonia, sorte de polar tourné au cœur d'une prestigieuse formation musicale, et demain soir, retour de Fauteuil d'orchestre sur France 3. Est-ce la quasi-disparition de toute musique jouée sur des plateaux de télévision qui donne d'un seul coup et en proportion autant de place à la musique classique? Est-ce le signe d'un média qui s'est définitivement résigné à parler à des vieux, je parle de la télévision. Ou au contraire, la volonté plus que jamais affichée de montrer que le classique n'a ni âge, ni étiquette sociale, qu'il se partage, se secoue, se détourne et se mêle, comme toutes les cultures, à toutes les cultures. Bref, allons-y franchement, Verdi et Mozart symbolisent-ils les fossés et les fractures de notre société ou peuvent-ils les ressouder?
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Ça fait un sacré programme. Hein. Bonjour Anne Sinclair.
Bonjour Sonia.
Alors, Anne Sinclair qui présente et qui anime donc Fauteuil d'orchestre, à voir demain soir sur France 3 toute la soirée et à lire aussi dans le JDD chaque dimanche. Et d'ailleurs, je me suis dit, Anne Sinclair, 13 ans de 7 sur 7 le dimanche soir, ensuite des années de retrait de la vie médiatique. Et puis, vous acceptez à nouveau de commenter l'actualité. Pour qui? Pour le journal du dimanche. Êtes-vous une femme du dimanche?
C'est une question que je me suis posée. Surtout que j'ai commencé ma vie professionnelle sur France 3 le dimanche soir à 20h30 à l'heure du film de TF1. Donc je suis abonnée au dimanche et il y a la vieille chanson je déteste les dimanches. Ouais. Finalement j'y suis abonnée.
Il y a un film de Comencini aussi, oui, qui s'appelle La femme du dimanche. Mais alors il y a les femmes du dimanche et puis il y a aussi le journalisme du dimanche. Alors on pourrait penser que c'est péjoratif d'être journaliste du dimanche comme on est peintre du dimanche. En même temps ça dit quelque chose de la fréquence à laquelle on commente et on s'immisce dans la vie médiatique. Ça dit quelque chose quand même.
Le dimanche,
ce rythme hebdomadaire.
Oui, le rythme hebdomadaire est un rythme difficile, puisqu'on voit bien que les news magazines ont beaucoup de mal.
C'est ça.
Le journal
c'est
du dimanche a une
aujourd'hui
qualité
dans la presse française.
Parce que, à mon avis, il combine les deux. C'est un quotidien qui paraît le dimanche, donc avec l'actualité du week-end, du samedi, et en même temps, c'est un peu de recul de la semaine. Donc, voilà, moi j'aime ce journal, je le trouve riche et intéressant, et j'adore la liberté qui m'est donnée, surtout qui est un luxe inouï, c'est que j'y fais ce que je veux, c'est le privilège de l'âge.
C'est le privilège de l'âge. Vous chroniquez l'actualité, Anne Sinclair, dans le JDD, essentiellement social et politique.
Non,
autorisez beaucoup d'incursions.
Vous verrez dimanche.
Ouais, voilà. Alors, elle est très, très secouée en ce moment, l'actualité sociale et politique. C'est marrant parce que, en fait, on s'est replongé dans vos années de 7 sur 7 que vous avez présentées jusqu'en 97. C'est-à-dire que les deux dernières années de votre émission, vous avez couvert les grandes grèves de 95 jusqu'à la dissolution de l'Assemblée nationale. En 95, Alain Juppé viendra trois fois dans 7 sur 7 en 4 mois. Enfin, le pont entre 95 et 96. Nous, on a retrouvé. Écoutez le silence d'Alain Juppé.
Bonsoir à tous. Tout de suite, Alain Juppé. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Ma première question, ce serait de vous demander dans quel état d'esprit vous êtes ce soir, au bout de trois semaines de crise et au lendemain de manifestations qui montrent quand même toujours une certaine mobilisation assez forte.
Je cherche les mots qui pourraient exprimer le mieux ce que je ressens au fond de moi-même.
Incroyable ce silence.
Oui, j'avais oublié, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était la France entière dans la rue, et des cortèges monstres, des blocages incroyables. L'ampleur était sans doute moins médiatiquement forte qu'aujourd'hui, parce que la caisse de résonance l'était moins, mais socialement, c'était très, très violent.
Très violent, et justement, je me suis posé la question, est-ce qu'on s'en prenait aux médias? Est-ce qu'on s'en prenait aux journalistes dans ces mouvements-là et à la fin de ces années-là?
Je me souviens plus très bien, mais je crois moins. En fait, on s'est toujours pris aux journalistes parce que c'est le porteur de mauvaises nouvelles, c'est celui qui vient vous raconter tout ce qui va pas. Donc évidemment, on s'en prend aux journalistes. Ce que je crois, ce qui est plus grave aujourd'hui...
Mais est-ce que la couverture médiatique de ces mouvements sociaux a été autant remise en question qu'elle l'est aujourd'hui?
Non.
Est-ce que les gens étaient dans la rue pour crier leur défiance vis-à-vis des institutions, certes, et là, du gouvernement en 95, mais aussi vis-à-vis des médias?
Non, la différence avec aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui les politiques sont pourris, les journalistes sont incompétents ou pourris eux aussi, les scientifiques sont absolument vous disent des vérités qui n'en sont pas, et moi qui ne connais rien à un sujet, je vais être aussi intéressante et capable d'en parler qu'un expert qui a consacré sa vie. Donc, au fond, quand une société va mal, tous les médiateurs de cette société, le sachant d'une manière générale, est considéré comme suspect. C'est extrêmement grave. Alors, je ne dis pas que les journalistes n'ont pas de tort.
Non.
Bien sûr qu'ils en ont, comme toutes les professions.
Oui.
Et il faut qu'on se remette en cause, il faut qu'on regarde pourquoi les Français n'achètent plus de journaux, pourquoi ils sont à ce point discrédités, pourquoi ils se tournent vers les réseaux sociaux, qui en matière d'information, c'est quand même autrement plus grave qu'une information
estampillée. Pourquoi la télévision a à ce point perdu de la crédibilité, si on s'en réfère?
En même temps, j'entendais sur Inter ce matin que, en effet, les journalistes sont haïs, la télévision est détestée, et quand il se passe quelque chose, il y a des records d'écoute. Donc tout ça me paraît, en effet, nécessiter une réflexion.
Est-ce qu'en 1995, vous, femme de télévision, vous vous êtes posé la question, qui paraît incontournable là, aujourd'hui, d'émission spéciale avec les grévistes? Est-ce que, comme les grands intervieweurs politiques de l'époque qui sont confrontés aujourd'hui, vous auriez mélangé ministres, grévistes, personnages de la société civile pour remettre toutes ces paroles au même niveau? Parce qu'on sent que c'est une demande très forte et que la télé ne peut pas y échapper.
C'est une demande très forte aujourd'hui. À l'époque, il y avait une médiatisation qui existait. C'est-à-dire que les grévistes étaient représentés par des syndicalistes à qui ils faisaient confiance. Mmh. Les syndicalistes sont détestés aujourd'hui et doublés aussi sur leur terrain. Donc, il y avait au moins, il y avait une société qui se parlait de responsable à responsable. Et les gens se sentaient représentés. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils ne sont plus, ils ne se sentent plus représentés. Alors, pourquoi? Bon, on aurait du temps.
Le Premier ministre venait une fois par mois dans 7 sur 7. Musique. A costoro a bellezza e quel dono di quel fato è la viena la vita soggi questa. Fil rouge de fauteuil d'orchestre à voir demain soir sur France 3, c'est Rolando Villazon, grand ténor réputé pour le répertoire italien, notamment Verdi, Puccini, Monteverdi. On l'entend là dans l'air de Questa e Quella, que reprendra d'ailleurs un
Kevin
jeune.
Daniel, oui.
Voilà, durant l'émission. Vous êtes venu à ce micro il y a 3 ans, Anne Sinclair. Lors de la création de fauteuil d'orchestre, vous aviez été très ferme à ce moment-là. Vous m'aviez dit,
le pire.
Ce n'est pas le retour d'Anne Sinclair à la télévision. Non, 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 je ne reviens pas.
Oui, bon, j'y viens une fois par an.
Deux. C'est la cinquième
exceptionnellement,
édition.
Exceptionnellement, cette année, ça fera deux. Mais bon, c'est pas un encombrement cathodique de première grandeur. C'est vrai que la première fois, quand on m'a demandé de faire cette émission, j'ai dit, je joue le jeu parce que ça me passionne, parce que j'adore la musique depuis que je suis enfant et que j'ai envie de la faire partager pour montrer que c'est justement pas quelque chose d'excluant, mais d'incluant, comme on dit aujourd'hui. Donc je m'étais dit, je fais une émission puis on verra. Puis je me suis laissé prendre au jeu et encore une fois, la fréquence est quand même moins grande que celle du JDD dont vous parliez.
Vous savez ce qui est extrêmement frappant quand on vous regarde animer cette émission fauteuil d'orchestre, c'est-à-dire qu'il y a un sacré décor, hein. C'est très très beau à l'image, il y a un dispositif impressionnant.
C'est au Théâtre des Champs-Élysées.
Voilà, la salle est magnifique, il y a l'orchestre évidemment, il y a le public à 180 degrés et vous, au milieu, vous êtes d'un cool. Mais comme j'ai rarement vu une animatrice, d'un coup totalement détendue, vous recevez les gens comme à la maison. Non,
oui,
mais on se dit que si la télévision veut décontracter la télé, soit elle recrute des mômes de 31 ans, soit elle appelle Anne Sinclair qui ne fait plus ça
qui
que
n'a
pour
plus
le plaisir.
Ans.
Non, mais qui fait ça que pour le plaisir, c'est manifeste.
Oui, ça c'est vrai. C'est vrai que on n'a pas d'autre responsabilité que de dire j'aime et je vous le fais partager. C'est un luxe, là aussi, c'est un luxe extraordinaire que de pouvoir faire la matière qui vous habite depuis toujours et à laquelle on vraiment personne ne prêtait attention. On m'a demandé 100 000 fois de refaire une émission politique, mais ça suffit. Il faut savoir se renouveler, il faut savoir bouger, avancer, faire autre chose. Et donc là, c'était une occasion extraordinaire que m'a donné France 3. Et en prime time, c'est un effort formidable.
Plaisir, maître mot de cette émission, Rolando Villazon.
Rolando, il paraît que vous donnez à vos élèves le conseil de chanter sous la douche, c'est vrai?
Absolument. Je crois que c'est très important.
À quoi ça sert? À part son propre plaisir.
Mais c'est ça. Parce que tout le monde commence par chanter simplement parce qu'on aime chanter. Après, on pense que c'est la gloire, que c'est la célébrité, que c'est le grand théâtre, le but. En fait, le but doit toujours rester aimer les chants, aimer l'interprétation. Et quand on est sous la douche, on le fait pour personne, on le fait pour soi-même.
Michel, vous chantez sous la douche?
Non, et mes voisins m'en remercient.
Ça, c'est Michel Blanc. Oui, ça, c'est Michel Blanc. Le plaisir et des médiateurs pour transmettre ce plaisir. Parce que quand même, il faut trouver des mécaniques de télévision, Anne Sinclair, pour partager quelque chose qui est bardé de préjugés et d'appréhensions, à savoir la musique classique sous toutes ses formes. Des médiateurs, je l'ai dit, des acteurs, des musiciens, des humoristes, Elise Moon, André Manoukian qui prend le piano, pour des passeurs, en quelque sorte.
Oui, qui explique que c'est dans toutes les formes d'art, enfin moi j'adhère à cette idée-là, c'est que le plaisir est moteur. Donc vous allez dans une exposition, si vous aimez, vous êtes capable de faire aimer. Donc l'idée de cette émission de Fauteuil d'orchestre de demain soir, c'est de dire, il y a des personnages connus comme Charles Berling, comme Elise Moon, comme Michel Blanc, comme André Manoukian, qui sont connus, enfin, André Manoukian c'est un grand musicien, mais qui sont connus dans leur domaine et dont on ne sait pas que la passion, c'est en effet la musique classique ou l'opéra. Elise Moon est un dingue de Wagner. Et donc, qui ont envie de faire connaître cette passion-là en essayant d'y amener des jeunes qui aujourd'hui en font leur métier et qui ont une façon décomplexée de le faire. Il y a une merveilleuse chanteuse qui s'appelle Chloé Brio qui vient chanter le grand air de Chérubin des Noces de Figaro. Elle vient chanter en basket parce que c'est comme ça qu'elle est et qu'elle vit.
La thématique de l'émission, justement, la jeune génération de musiciens, parce que la France excelle quand même à former des musiciens. Place aux jeunes. C'est quand même extrêmement drôle que ce soit dans votre bouche à vous, qui n'hésitez pas à dire jamais « c'est le privilège de l'âge, j'ai passé l'âge ». Et c'est vous qui arrivez à la télévision pour dire « place aux jeunes ».
Mais oui, bien sûr. On est quoi? On a un peu d'expérience, donc il faut mettre cette expérience au service de la génération qui vous suit. J'ai absolument jamais eu la prétention d'avoir des chasses gardées et de garder ou mon fauteuil ou mon univers. Il faut au contraire aider ceux qui aujourd'hui arrivent. Et c'est ça qui est passionnant, c'est de voir qu'ils ont une façon moderne de vivre la musique. Quand vous voyez un type comme Nemanja Radulović, c'est un très grand musicien, très grand violoniste. Vous le voyez avec, il a tellement de cheveux qu'il se fait un chignon, tellement ses boucles lui tombent dans les cheveux. Vous voyez Simon Graichi qui est un formidable pianiste et qui est un look de rockstar.
En tout cas, il y a du temps et du temps aussi pour écouter les morceaux. Mais à propos de look de rockstar quand même, parce que je reviens sur ce que vous dites, justement, c'est frappant. Ils ont tous des super gueules, vos musiciens. Ils ont tous des super gueules. Ils sont beaux, ils sont souriants. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque aussi de vouloir absolument rendre la musique classique télégénique et d'en faire une sorte de produit télé, grand public, d'arriver à ce qui est arrivé finalement à beaucoup de disciplines artistiques, c'est-à-dire d'avoir une frange ultra médiatisée qui finalement est très très loin de la réalité?
Oui, ultra médiatisée, mais on ne les connaît pas, ces jeunes-là. Donc je défie un tubiste qui est là, qui est justement amené par Michel Blanc, qui s'appelle Thomas Leleu, qui joue du tuba de manière classique et qui en joue comme on joue du saxo et qui a un look en effet d'aujourd'hui. C'est les jeunes sont des jeunes. Mmh. Et ils s'habillent, ils parlent, ils agissent comme des jeunes.
Donc, des popstars, me dit-on en régie. C'est des popstars. Vous en faites des popstars, un peu?
Oui, je fais rien du tout. J'essaie simplement de montrer. Alors, d'accord, si vous me dites, il faut mieux la rendre attrayante que barbante. Oui.
Mais c'est exactement le discours de Stéphane Bern. Tant pis si c'est des châteaux, des grands bijoux, des histoires de duchesse ou de reine. Au moins, on fait de l'histoire en prime time. À la télévision.
Oui, moi,
j'adhère. Il y en a qui détestent ça. D'autres qui disent.
J'adhère à ça. Oui. Sinon, on en fait un pré-clos, un pré-fermé, oui. Où n'entrent que ceux qui sont habilités, qui ont une carte d'entrée dans ce monde-là. Oui. Donc là, c'est bien d'essayer.
Je dois vous dire que quand même, il y a beaucoup de temps accordé aux morceaux et à la musique. Il y a trois violoncellistes qui reprennent du Wagner, une transposition de Wagner, la mort d'Isolde dans Tristan et Isolde. Moi, je veux dire, moi qui ai reçu une éducation favorisée bourgeoise, j'ai jamais été voir Wagner sur scène parce que j'ai toujours cette appréhension que Wagner, c'est trop difficile. C'est pour d'autres, c'est pour une élite qui s'y connaît, voilà.
Si vous regardez l'émission, je sais que vous l'avez regardée puisqu'elle est enregistrée et qu'elle passe demain soir, vous verrez qu'il y a une petite qui s'appelle Mia Mandino, qui est une chanteuse lyrique, qui a 20 ans et qui raconte sur YouTube, donc elle prend un instrument d'aujourd'hui pour parler d'opéra et elle raconte de manière complètement déjantée les lyriques, les scénarios d'opéra et les livrets d'opéra. Et donc, c'est ça, c'est l'idée de dire, c'est pas un monde à part, prenez-y du plaisir.
C'est pas un monde à part, j'ai relevé une phrase de Rolando Villazón.
Je voulais dire aussi que l'important, et c'est grâce à des émissions comme Fauteuil d'orchestre, vraiment, que la télévision ouvre cette fenêtre pour dire, voilà, la musique classique, ça fait partie de qui nous sommes et de notre société.
De qui nous sommes?
Oui, c'est Rolando Villazón vit là-dedans et donc pense comme tous ceux qui vivent dans un système, dans une culture, pense que elle détermine l'ensemble du champ social. Non, la musique classique dit pas plus qui nous sommes que l'art ne dit qui nous sommes, que l'information ne dit qui nous sommes. C'est l'ensemble des sons, des images et des mots qui définissent aujourd'hui une société. Donc ça fait partie
Mais je trouve ça extrêmement intéressant parce que je pense que les directeurs de programmes de chaînes de télévision en ce moment ne cessent de se dire, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment pour faire une grande émission magnifique à Chambord? Est-ce que c'est le grand bon moment pour parler de musique? Est-ce qu'on n'est pas complètement hors sol? Est-ce que les gens sont pas dans la rue? Est-ce que les gens attendent pas autre chose? Est-ce qu'en leur montrant ce genre de programme, on ne s'éloigne pas d'eux? Justement, c'est toute la question du moment, vous qui proposez cette émission en prime time et sur le service public.
Justement, je crois que les programmes de télévision meurent si on se dit est-ce que ça correspond à ce que les gens veulent. Et c'était Chancel qui disait ça, je crois, et qui disait il faut offrir aux gens ce qu'on aime et d'ailleurs ils viennent. Les gens et vous et moi, on est consommateurs. Si ça nous plaît, on regarde. Donc il faut au moins qu'il y ait une volonté de montrer quelque chose de beau, de joli, d'intéressant pour que les gens disent j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de voir. Si on est simplement un miroir où on tourne le miroir vers la société et on le retourne après vers les médias, alors on a des catastrophes.
Je vous propose qu'on se quitte en écoutant du Wagner. Je demande à François, notre réalisateur, de nous mettre ce Wagner que moi j'ai découvert jouer au violoncelle. Regardez comme c'est beau. Et en face de moi, là, j'ai Ali Rebéi qui vient de rentrer dans le studio et qui depuis hier me dit Anne Sinclair en vrai. Oui, Anne Sinclair en vrai.
Je vous envoyais un mail hier pour vous dire, avec un smiley, des cœurs dans les yeux, parce que je suis absolument ravie de vous rencontrer, Anne Sinclair. Même brièvement, ça me fait ma journée.
Vous allez quand même faire une émission avant de faire votre
consacrée
journée.
Consacrée à l'intelligence artificielle dans nos vies quotidiennes. Oui. Ces machines qui vont nous assister à la maison, à l'hôpital, chez les médecins, dans les EHPAD, en voiture, dans nos loisirs. Êtes-vous ravie inquiet, émerveillé par l'arrivée inéluctable de toutes ces nouvelles technologies, appelez-nous au 01 45 24 7000.